Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 pour faire parler les pierres qui roulent aujourd'hui dans notre émission d'archéologie en direct de la chapelle du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Un lieu propice à notre thème du jour puisque nous allons y parler des interactions entre les sphères du culte et du pouvoir, observées plus spécifiquement à travers le regard de l'archéologue. Alors le culte est-il nécessaire à la cohésion sociale, comme l'affirmait le préhistorien Marcel Hoth en 1993 ? Pour cette troisième émission consacrée au thème des dualismes, c'est la notion de laïcité qui nous a inspirés, constamment remise en question dans nos sociétés actuelles et plus encore à la lumière des interactions socioculturelles qui grandissent au cœur des phénomènes de mondialisation. Comment concevoir un groupe culturel sans impliquer dans sa définition les systèmes de croyances qui l'érigent et auxquels il appartient? Ces croyances se traduisent par un ensemble de pratiques liées à des constructions intellectuelles appartenant au registre du sacré. C'est ainsi que l'on définit la notion de culte. Il peut être vécu de manière publique ou privée et met en jeu une relation du croyant au supérieur, au sacré. Nous avons voulu interroger le rôle de ces cultes dans les sociétés humaines et ses articulations avec la sphère politique, les moments de passage, d'emprise ou de rejet entre les deux domaines et leurs implications dans la définition d'une société humaine, culturelle, publique ou privée. L'histoire, les sciences religieuses, politiques ou l'anthropologie apportent des pistes de compréhension sur ces thématiques, mais où se place l'archéologie dans ses recherches? Aujourd'hui, deux intervenantes sont avec nous pour nous éclairer sur la question. Amélie Perrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire grecque et archéologue à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4, ancien membre de l'école française d'Athènes et actuellement maître de conférence à l'université d'Orléans. Vous avez soutenu donc votre thèse en 2012 sur les Étoliens dans l'Antiquité. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui et nous aurons l'occasion donc de nous pencher sur ces questions-là pendant notre heure sur Radio Campus. Jennifer Kerner est également avec nous. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en archéologie et chargée d'enseignement en ethnologie préhistorique à l'Université de Paris 10, Nanterre-la-Défense. Et votre travail de thèse porte sur les dépôts secondaires de restes humains. Il est en cours depuis 2 ans déjà et porte sur l'étude des déplacements d'ossements humains sur une portée chronologique très large, hein, puisque vous partez depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge.
Tout à fait.
Pouvoir du culte ou culte du pouvoir, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris ? Oh là là !
Alors je vais commencer d'abord par définir finalement ce qu'est le culte et puis ses notions en détail. C'est pas forcément le sujet, mais on va tenter de comprendre surtout quelle est la variété des définitions que peut prendre le culte et en quoi les valeurs, leurs valeurs propres jouent un rôle dans la définition d'une société donnée. Il y a 2 mois, on a abordé ce que pouvait être le culte féminin lors de notre dernière émission à travers l'image de la femme, mais aussi et toujours grâce aux ossements comme source primaire en archéologie. Jennifer Kerner, donc vous avez travaillé sur à peu près 6000 sépultures, si j'ai bien compris. Ça fait
La dernière fois que j'ai compté mon corpus, oui, j'avais 6000 structures, pour être précise, c'est-à-dire des structures qui peuvent être des sépultures, donc qui peuvent être funéraires, mais également des structures qui peuvent être mortuaires ou qui peuvent être de type trophée militaire, enfin plein de choses très diverses et variées.
Vous parlez des dépôts secondaires, hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Ce sont des dépôts d'ossements qui ont été repris sur une autre structure pendant laquelle le cadavre s'est décharné. Donc cette structure peut être funéraire ou peut être autre chose. Et ces ossements nous apportent beaucoup d'informations sur de très nombreuses manifestations culturelles, rituelles, funéraires ou autres, tout simplement parce qu'elles sont extrêmement dépensières en énergie pour les sociétés qui les pratiquent, puisque ça sous-entend un calendrier rituel bien normé et des dépenses économiques considérables.
Et très rapidement, comment est-ce qu'on reconnaît ce genre de structure funéraire comparé à des ossements humains enterrés normalement ?
C'est un vrai souci méthodologique pour les archéologues parce que au départ, on a eu tendance à considérer les dépôts secondaires comme des dépôts en déconnexion anatomique, hein, c'est-à-dire que les ossements ne sont plus connectés entre eux comme dans une sépulture primaire. Il se trouve que la réalité du terrain est un peu autre, malheureusement, et que parfois, on fait des déplacements avec des corps sur des très longues périodes de temps, sur des très longues distances, mais la conservation du corps fait que parfois les articulations sont toujours présentes. Par exemple, lorsque l'on déplace un corps qui a été momifié, eh bien l'archéologue ne voit pas la différence avec une sépulture dite primaire. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est un peu l'objet de ma thèse de faire le tri là-dedans.
Très bien. Et vous travaillez donc aussi sur l'aspect cérémoniel et rituel finalement de ces enterrements. Donc on en vient à notre thème. Est-ce que le corps finalement peut être un support du culte ?
Le corps est par définition, enfin je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais le corps est le premier instrument pour le culte et d'autant plus quand il s'agit de faire un culte autour du pouvoir. La corporalité est extrêmement signifiante, puissante d'un point de vue sémiotique, c'est-à-dire que le corps a réellement valeur de signe, que le corps soit mort ou que le corps soit vivant. On va traiter différemment le corps du dirigeant du corps de quelqu'un du commun lorsque la personne est vivante. Ça va passer par des parures, ça va passer par des ornementations corporelles comme des tatouages, des choses comme ça, que l'on peut retrouver en archéologie d'ailleurs. Et puis ça va se refléter d'autant plus dans la sphère du mortuaire.
Amélie Perrier, donc vous travaillez sur le sanctuaire de Delphes. Est-ce que vous pouvez nous situer plus précisément donc qui sont les Étoliens, ces personnes sur qui vous travaillez, dans le temps, dans l'espace ?
Alors je travaille sur la période historique, la période grecque. Les Étoliens sont un peuple du nord-ouest de la Grèce, un peuple qui est méconnu pour la simple raison qu'ils n'ont laissé aucune source littéraire. Donc on les connaît par le regard des autres Grecs, qui n'en parlent d'ailleurs que quand ils ont affaire aux Étoliens, donc à la période hellénistique et en particulier au IIIe siècle. C'est notamment l'historien Polybe qui parle des Étoliens. Et donc, pour essayer de mieux comprendre, de mieux restituer l'histoire des Étoliens, il faut adopter une méthode particulière qui est l'analyse des représentations de ce peuple dans les autres sources. Voilà. Ça m'a amené à travailler sur le sanctuaire de Delphes, puisque au IIIe siècle, les Galates, donc les Gaulois, déferlent par le nord sur la Grèce et ils arrivent près du sanctuaire de Delphes, qui est un des sanctuaires les plus importants du monde grec. Et là, les Grecs coalisés, et notamment les Étoliens, défendent le sanctuaire et empêchent les Galates de détruire le sanctuaire. Et donc, les Étoliens en profitent pour prendre possession en quelque sorte du sanctuaire, notamment d'un point de vue idéologique. Enfin, ils profitent de leur victoire sur les Galates pour développer leur propagande dans le sanctuaire de Delphes. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'était d'étudier les représentations politiques ou l'usage politique d'un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire un sanctuaire qui concerne tous les Grecs. À la période hellénistique en particulier.
Donc on est ici sur un cas de culte, un lieu de culte finalement religieux qui peut être utilisé donc dans des cas de propagande politique.
C'est un lieu de culte qui est un centre politique où se fait la politique internationale.
Ça me fait penser aussi au culte des ancêtres sur lesquels vous travaillez aussi, Jennifer Kerner.
Alors, le culte des ancêtres, eh bien, c'est quelque chose d'abord qu'il faut bien différencier du culte des ossements. Le culte des ossements, pour nous archéologues, c'est un terme un petit peu générique que l'on utilise lorsque l'on voit qu'il y a eu des manipulations d'ossements importantes et des manifestations cultuelles autour de ces ossements, mais que nous ne percevons pas très bien la portée symbolique de ce genre de geste. Donc un terme un petit peu fourre-tout, comme l'est le terme mortuaire, par exemple, également. Alors que le culte des ancêtres, c'est quelque chose de bien précis, qui doit aussi être différencié du culte des morts. Dans le culte des morts, on honore tous les morts, hein, quelle que soit leur origine sociale, politique, que sais-je, ou leur sexe, ou leur genre. Alors que dans le culte des ancêtres, les morts qui vont être vénérés vont être sélectionnés. L'archéologie nous le montre avec un petit peu de difficulté. En tout cas, l'ethnologie, et on en reparlera tout à l'heure, je crois, nous donne de très bons exemples là-dessus. Et effectivement, le culte des ancêtres, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait fondateur pour les systèmes politiques qui se mettent en place, qui justifient, qui légitiment en quelque sorte leur autorité sur un territoire et sur une population grâce aux manipulations des ancêtres.
Amélie Perrier, vous travaillez aussi sur des phases plus tardives, ou en tout cas vous les évoquez dans votre thèse, à propos du culte impérial, parce qu'il existe aussi un culte impérial. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu ?
Il faut voir que le rapport entre le culte religieux et le pouvoir, c'est quelque chose qui a évolué, qui prend différentes formes, qui a évolué dans le temps. Et je vais venir au culte impérial, mais pour vous donner une petite idée très grossière de l'évolution de ces rapports, en Grèce, à l'époque archaïque, à l'époque classique, le culte ne s'adresse pas seulement aux dieux, mais on honore également des héros, c'est-à-dire des personnages en général mythiques ou des personnages très importants qui sont en quelque sorte divinisés sans être confondus avec des héros. Donc ça, c'est une première étape sur la divinisation de personnages autres que des dieux. À l'époque, au début de l'époque hellénistique, vous connaissez tous Alexandre le Grand qui met en place son propre culte au fur et à mesure, par plusieurs étapes. Et alors notamment, il y a l'épisode de l'oracle de Siwa, donc il va en Égypte, et il se fait reconnaître par l'oracle d'Amon, qui est un dieu assimilé à Zeus. Il se fait reconnaître comme le fils de Zeus. Première étape dans le culte d'Alexandre le Grand. À la fin de sa vie, je passe toutes les étapes, mais à la fin de sa vie, il émet un décret qui demande aux cités de l'honorer comme un dieu, parce que beaucoup de cités grecques refusent. Et puis, il meurt à ce moment-là à Babylone. Mais le personnage d'Alexandre est en quelque sorte divinisé ensuite par ses successeurs. Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre en place leur légitimité. C'est-à-dire, on se réfère à Alexandre, qu'on élève au rang de dieu, et ça permet de fonder la légitimité des dynasties qui vont suivre. Et alors là, on passe encore à une autre époque, à l'époque romaine. Alors celui qui fonde le culte impérial, c'est Auguste, qui met en place donc le culte impérial en divinisant César, pas lui-même. Il refuse d'être divinisé de son vivant, et c'est le Sénat, après sa mort, qui le divinise par un senatus consulte. Donc c'est Auguste qui met en place tous les éléments de ce culte impérial, alors qu'il s'exprime de différentes façons. On élève par exemple des temples en l'honneur de l'empereur mort et divinisé. On se fait représenter sur les monnaies avec des attributs divins. Par exemple, on a beaucoup de représentations de souverains sur des monnaies avec portant l'égide, c'est-à-dire la peau de chèvre, qui est un attribut d'Athéna. Et donc, ça permet de créer une filiation, de reprendre ces éléments, ça permet de créer une filiation avec les dieux. Et alors, quel est l'intérêt du culte impérial ? Le culte impérial, c'est ce qui permet de maintenir la Pax Romana. C'est le seul culte qui permet d'établir entre les cités des provinces romaines et le pouvoir romain un lien qui dépasse, si vous voulez, les spécificités locales et les cultes municipaux. Donc c'est très important d'un point de vue politique pour maintenir le pouvoir de la puissance romaine dans les provinces. Donc on peut dire que l'empereur divinisé est une divinité politique.
Merci Amélie Perrier. On comprend bien pourquoi donc un empereur souhaite justement recevoir ce culte, hein, on l'a bien compris, et pourquoi lui. Mais alors, chez les ancêtres, lesquels on choisit finalement?
Alors ça, c'est une question très intéressante qui est encore en grand débat parmi les archéologues. En ethnologie, je dois vous avouer que les ethnologues sont peu bavards sur la façon dont on sélectionne quels morts ont le droit d'accéder au statut d'ancêtre. En archéologie, ce qu'on peut dire, c'est que ces personnes ont un traitement particulier, qui peut passer d'ailleurs par ce qu'on appelle des doubles funérailles, c'est-à-dire une première fois le mort est enterré, puis lors d'une deuxième cérémonie, ses ossements ou une partie de ses ossements seulement sont récupérés et il est placé dans un autre lieu spécifique, un lieu qui là du coup est un lieu de culte et non plus un lieu de commémoration funéraire, et il va faire l'objet d'une certaine attention pour obtenir de lui des faveurs. Parce que la vraie puissance de l'ancêtre par rapport aux morts normales, c'est qu'il intervient dans la vie quotidienne des individus. Ce n'est pas seulement, comme le mort ordinaire, un support spirituel, quelqu'un dont on se souvient et dont on chérit la mémoire, c'est quelqu'un à qui on demande des services, et parfois des services très triviaux. C'est-à-dire que dans l'ethnologie, là, on a des exemples, par exemple... J'ai en tête l'exemple de l'île de Pâques, qui est parfaitement cocasse, où les ancêtres sont mis dans les poulaillers pour favoriser la ponte des œufs. Chez les Dawago, on est dans le Cameroun, hein, donc un climat sec, et bien les ossements des ancêtres, ils vont être appelés pour faire tomber la pluie. Donc ça peut être quelque chose de dynastique, le culte de l'ancêtre, qui sert à asseoir un pouvoir politique, mais ça peut être également quelque chose de tout à fait trivial et de l'ordre de la nécessité quotidienne et vitale.
On va passer à un petit morceau de musique, histoire de se détendre après toutes ces explications complètes. Je vous laisse découvrir et je vous en parle après.
We're going to close by singing the African national anthem, Kosi Sikelele Africa. God bless Africa.
Mm-hmm.
Vous venez d'entendre l'hymne national d'Afrique du Sud, interprété par Myriam Makeba, Lady Smith Black Mambazo et Paul Simon, dans un enregistrement lors d'un concert donné en 1987, donc toujours sous l'apartheid. Donc, ce qui rejoint un peu notre travail, hein, dans le sens où c'est un hymne qui a été repris après l'abolition de l'apartheid et donc qui est assez intéressant pour nous aujourd'hui, entre un chant presque religieux finalement et des implications politiques que l'on connaît. On a donc parlé beaucoup du culte, on va en venir maintenant au pouvoir. Quel type de liens finalement sont en jeu entre le culte, les croyances et les dogmes des humains et les organisations politiques et les pouvoirs qui existent dans les sociétés? De quelle manière finalement leurs enjeux s'imbriquent, où se font les passages, comment ils se complètent ou s'opposent, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Jennifer Kerner, vous parlez dans votre travail de la puissance martiale et du culte des héros et du culte des ennemis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Eh bien, effectivement, le pouvoir politique, en tout cas lorsqu'il n'est pas encore institutionnalisé et lorsque nous n'avons pas de source textuelle, comme ma collègue a la chance d'en avoir, eh bien, passe par la matérialité, par l'étude des vestiges, et pour nous, eh bien, ça passe, parfois par l'établissement de structures particulières, de structures imposantes, et puis par l'exposition de sa puissance militaire, encore une fois, grâce à la manipulation des ossements des ennemis. Ça passe du coup par l'établissement d'un certain nombre de trophées que l'on trouve de manière relativement précoce. Hein. On connaît tous les grands trophées de Ripon-sur-Ancre, ce genre de choses. L'âge du bronze, l'âge du fer nous en fournit. Mais on a également des preuves peut-être un petit peu plus précoces encore. Le problème encore pour nous archéologues, quand on est face à des vestiges comme des crânes qu'on a isolés et qu'on a parfois modifiés, comme je pense par exemple au crâne surmodelé du PPNB au Levant Sud ou en Anatolie, c'est de savoir si on est justement face à la valorisation de la puissance martiale par l'exhibition du crâne des ennemis ou par la valorisation de l'ancestralité via le culte des ancêtres. On trouve pas mal de traumatismes qui nous montrent que certains de ces crânes qui ont été particulièrement valorisés, je pense par exemple en Anatolie, sont porteurs de traumatismes compatibles avec des activités guerrières et que donc nous sommes peut-être face à des têtes qui ont été découpées, comme le faisaient les Gaulois, sur les champs de bataille pour être ensuite exhibées et pour montrer tout simplement son pouvoir sur l'autre, son pouvoir sur l'ennemi, sur l'extérieur.
À ce moment-là, les ossements humains se font un support à la fois politique et religieux.
Alors, un support politique, c'est sûr. Un support cultuel, ça l'est également, encore qu'on ne peut jamais être vraiment très sûr avec des périodes aussi anciennes. Après, vous parlez de religion. Là, on rentre dans quelque chose de supplémentaire qui est l'établissement d'un dogme avec une véritable institutionnalisation du culte qui devient du coup organisé avec des chefs, des gens qui représentent une autorité religieuse. Tout ça, malheureusement, pour la préhistoire et la protohistoire, on a bien du mal à répondre à cette question-là.
C'est ça qui est intéressant justement dans le fait de vous avoir aujourd'hui toutes les deux, c'est que On voit véritablement deux types d'archéologie, une sans texte et une, même s'il n'y a pas de texte, en tout cas, grâce à d'autres types de textes, vous pouvez faire une archéologie différemment. Ce qui est intéressant aussi avec vous, Amélie Perrier, c'est que vous travaillez sur l'histoire des représentations, ce qui rejoint un peu ce qu'on disait sur les ossements humains, hein, que ce n'est pas forcément représentatif. Hein. Qu'est-ce que l'histoire des représentations, Amélie Perrier ?
Alors, c'est faire l'analyse de la façon dont furent perçues un certain nombre de réalités ou de peuples ou de personnages. Ce qui est très ambitieux, par exemple, quand on est devant un texte du IIIe siècle, il faut bien connaître le sens précis des mots employés à ce moment-là par tel ou tel auteur qui diffère évidemment de son sens dans les époques antérieures. Donc, pour l'histoire grecque, on est obligé, c'est une histoire à trous en quelque sorte, on a à la fois beaucoup de sources et très peu de sources, et évidemment, il faut s'appuyer sur les vestiges archéologiques, notamment, pour voir ce que les textes ne nous disent pas, ou essayer de faire le lien entre les textes et les réalités archéologiques. Et alors, par exemple, à Delphes, Delphes, c'est un sanctuaire panhellénique, c'est un sanctuaire oraculaire, c'est-à-dire on y pratique un culte oraculaire. Qu'est-ce qu'un oracle ? Un oracle, c'est la réponse donnée par un dieu à une question qui lui a été posée. C'est une réponse qui appelle une interprétation, puisqu'en général, il s'agit d'une parole énigmatique. Les dieux, alors tous les dieux ne sont pas des oracles. Certains dieux seulement donnent des oracles, notamment Zeus et surtout Apollon. Apollon qu'on appelle l'oxias, c'est-à-dire l'oblique, parce qu'on a toujours des réponses un petit peu difficiles à interpréter, qui sont données à Delphes par l'intermédiaire de la Pythie. Et alors c'est très intéressant parce que l'oracle joue un rôle particulier dans la conduite de la politique entre les cités grecques. C'est par l'oracle, avant tout, que la religion s'immisce dans le politique. Et d'ailleurs, ça a pu nuire parfois à la divination, parce qu'on a pu avoir un doute sur la pertinence de telle ou telle réponse du dieu, et on s'est demandé si les réponses n'étaient pas orientées par le clergé.
Vous parliez des traces justement archéologiques, enfin des traces archéologiques du culte dans un centre politique. Comment est-ce qu'on peut les voir ? Vous avez travaillé sur les offrandes publiques notamment, qui permettent donc la publicité de la victoire ou de l'hellénisme. Vous avez également travaillé sur des architectures. J'aurais voulu savoir quelles étaient ces formes spécifiques d'offrandes et quels étaient les lieux d'architecture, enfin les architectures sur lesquelles vous avez pu travailler. Et comment peut-on savoir comment se sont faits les choix ?
Alors, dans un sanctuaire panhellénique comme Delphes, comme Olympie, il faut savoir que les sanctuaires, ce sont des lieux de publicité, ce sont les lieux d'affichage des décrets ou des traités internationaux. Et quand je dis lieu de publicité, eh bien c'est parce que les cités ou les particuliers font des offrandes aux dieux dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans l'espace sacré. Et par exemple, les cités peuvent offrir ce qu'on appelle des trésors, c'est-à-dire des petits bâtiments en forme de temple qui sont destinés à recevoir les diverses offrandes de la cité en question. Par exemple, à Delphes, les Athéniens ont offert un trésor, donc un bâtiment, dans lequel ils déposent les offrandes faites par les Athéniens uniquement à Apollon. Et du coup, il y a une sorte de concurrence, de rivalité entre les cités pour obtenir la meilleure place dans le sanctuaire. Alors à Delphes, la meilleure place, c'est, on dit en grec, ento epiphanestato topo, c'est-à-dire dans le lieu le plus visible, c'est-à-dire devant le temple d'Apollon. Donc il y a un peu une surenchère aussi architecturale. Et puis le jeu pour les cités, c'est aussi de faire leur propre publicité. Donc on va construire un bâtiment qui reflète l'identité de la cité, puisque c'est un sanctuaire qui est fréquenté par tous les Grecs, et pas seulement par les Grecs, par l'ensemble du monde méditerranéen. Donc les gens qui viennent dans le sanctuaire pour le culte, pour les jeux pythiques, puisqu'il y a des jeux organisés tous les 4 ans, ou pour consulter l'oracle, voient ces monuments offerts par les cités ou offerts par des particuliers importants, comme les souverains hellénistiques, voilà, qui affiche leur puissance en fait dans le sanctuaire.
Oui, il est véritablement question finalement d'image. Je sais que vous parlez aussi dans votre travail de création iconographique, notamment à travers plusieurs statues qui sont érigées sur le sanctuaire. Quelles sont justement ces personnifications ?
À Delphes, on va représenter sous forme de statues, par exemple, les généraux vainqueurs pour mettre en valeur la victoire remportée par telle ou telle cité. On va les représenter à côté des dieux, par exemple, qui ont aidé à la victoire. Et ça aussi, c'est tout à fait dans notre sujet. On ne gagne pas une guerre sans l'aide d'un dieu qui légitime aussi l'action menée par la cité. Pour les Étoliens, eh bien, on a une représentation. Enfin, on n'a pas conservé la statue, mais on l'a conservée sur des monnaies. Et puis, on a des sources littéraires qui nous en parlent. La statue de l'Étolie, donc la personnification de l'Étolie, était dressée dans le sanctuaire pour faire justement la publicité de cette puissance au IIIe siècle. Les Athéniens, sur le trésor qu'ils ont édifié dans le temple, dans le sanctuaire, pardon, ont représenté les héros, les mythes qui les définissent, qui font l'identité de la cité, et notamment le mythe de Thésée qui est le héros athénien par excellence. Voilà, donc en fait, on peut uniquement à partir des vestiges archéologiques, bon là évidemment on a des textes donc c'est encore mieux, on peut travailler, réfléchir sur l'identité de telle ou telle cité et sur les enjeux de pouvoir et les rivalités entre les différents entre les différentes personnes ou les différentes cités qui sont représentées dans, ou les différents peuples représentés dans le sanctuaire. Et dans le cas des Étoliens, j'ai pu remarquer qu'il existe une véritable ce que j'appelais une topographie de la propagande, puisque ils vont ériger les monuments, les offrandes, alors il peut s'agir de colonnes, il peut s'agir de statues, sur un parcours qui mène jusque devant le temple, qui passe au sud du temple et qui mène juste devant le temple. Donc c'est un endroit qui est très fréquenté et qui est très prestigieux. Donc là, on a vraiment une mise en scène de la propagande politique à l'intérieur d'un sanctuaire. Et alors il faut savoir aussi que, en général, les sanctuaires dépendent d'une cité. C'est le cas d'Olympie qui dépend de la cité d'Élysse. Dans le cas de Delphes, c'est différent, puisqu'il existe une cité, la cité de Delphes, et le sanctuaire qui ne dépend pas de la cité, mais qui est géré par une association de 12 peuples de Grèce centrale. Et donc, ce sont ces peuples qui sont réunis en conseil, on appelle ça l'amphictyonie, qui décide un petit peu de la gestion du sanctuaire, de la politique du sanctuaire. Un sanctuaire de cette taille, de cette ampleur et de cette renommée, c'est un endroit qui rassemble de véritables trésors. Et pendant les guerres, on a de nombreux récits où on va piller les sanctuaires pour financer les guerres. Et c'est le dieu possède de nombreux biens. C'est le cas à Délos, c'est le cas à Delphes, c'est-à-dire que le dieu, Apollon, possède des territoires, possède ce qu'on appelle la terre sacrée, etc. Donc, c'est en cela que c'est un lieu éminemment politique.
Très bien, donc on le voit, beaucoup de disciplines finalement sont en jeu, du funéraire, du bâti, de l'iconographie. Qu'en est-il des autres disciplines ? Émile est avec nous... est revenu parmi nous pour...
Je m'occupe de tout le reste, c'est ça ?
Voilà.
Ça fait beaucoup. Donc je vais vous proposer une chronique qui se balade un petit peu entre l'histoire des idées et l'anthropologie. Il nous est aujourd'hui difficile de concevoir la relation fusionnelle qui a uni la sphère politique et la sphère religieuse pendant la plus grande part de notre histoire. Pétri de laïcité, bercé au récit de l'individu autonome, libre de ses engagements comme de ses croyances, nous sommes enclins à voir dans les cultures autres, celles du passé comme celles de l'ailleurs, des survivances d'une indifférenciation originelle du politique et du sacré, survivances promises à une disparition certaine au fur et à mesure que progresseront la rationalité scientifique et son corollaire politique, la démocratie. On oublie trop souvent que la spectaculaire sécularisation de notre société, commencée avec la Révolution française et poursuivie au cours des deux siècles suivants, s'est accompagné d'un essor tout aussi spectaculaire des idéologies politiques. Pour le philosophe et historien des idées Marcel Gaucher, nous avons basculé entre 1750 et 1850 d'un monde hétéronome à un monde autonome, d'un monde qui cherchait ses lois dans la transcendance, aidé en cela par la religion, à un monde qui espérait les trouver en son sein, guidé par les idéologies politiques. Or, ces idéologies, si elles tentent d'articuler un discours scientifique sur le monde avec des mesures politiques à même de le transformer, sont aussi, par essence, des croyances, puisqu'elles se prononcent sur ce nouveau temps social légitime qu'est le futur, en essayant de le prédire autant que de le faire advenir. Durkheim avait bien saisi dans son étude des formes élémentaires de la parenté, des formes élémentaires de la vie religieuse, pardon, qu'il n'y avait au fond pas de grande différence entre les rites religieux et ceux laïcs de la très anticléricale Troisième République. Il se demandait ainsi, je le cite, « Quelle différence essentielle y a-t-il entre une assemblée de chrétiens célébrant les principales dates de la vie du Christ ou de juifs fêtant soit la sortie d'Égypte, soit la promulgation du décalogue ?» et une réunion de citoyens commémorant l'institution d'une nouvelle charte morale ou quelque grand événement de la vie nationale. Ce n'est finalement que depuis les années 70, d'après Marcel Gaucher, que croyances politiques et croyances religieuses feraient véritablement chambre à part au sein de nos sociétés, quoique toutes deux résident également dans notre fort intérieur. Je le cite, « La croyance religieuse est en train de cesser d'être politique, ce qui lui ouvre un autre avenir, et la croyance politique est en train de cesser d'être religieuse, ce qui nous fait entrer dans un nouvel âge de la politique, et plus largement dans un nouvel âge de l'action historique. » On pourrait discuter de ce point, mais même en acceptant le constat, rien ne nous dit que cette séparation radicale du religieux et du politique, tant dans nos institutions que dans nos croyances, ne soit pas qu'un moment de notre histoire aussi réversible que le sont les périodes de concorde, d'abondance et de découverte. Car au fondement de nos sociétés, il y a le politico-religieux. C'est le concept forgé par Maurice Godelier après son analyse de la société Barouya de Nouvelle-Guinée. L'anthropologue a vécu plusieurs années en leur compagnie dans les années 60, alors même que les Barouya n'avaient vu les premiers blancs que 7 ans plus tôt. Assistant de Lévi-Strauss, Godelier se dit alors structuralo-marxiste et il va mettre à l'épreuve de son terrain d'enquête les hypothèses fondamentales de chacun de ces deux courants. Pour le structuralisme, ce sont les règles de parenté qui fondent une société. C'est la prohibition de l'inceste qui va générer la nécessité de l'alliance extrafamiliale, donc de l'échange des femmes, donc du social. Pour le marxisme, ce sont les rapports de production qui sont à la base de la société. C'est par l'exploitation de la nature et les échanges subséquents de ces produits que se constitue le tissu social. Le jeune assistant de Lévi-Strauss va vite s'apercevoir que ces deux hypothèses ne fonctionnent pas, ou plutôt ne suffisent pas. Ni l'une ni l'autre ne rendent compte de l'extension et de la cohésion de la société Barouya, laquelle étend son périmètre bien au-delà de celui des échanges économiques et des alliances. Pour expliquer ce que signifie être Barouya, Godelier aura donc besoin d'autre chose. Cette autre chose va lui être fournie par une cérémonie d'initiation rassemblant plusieurs centaines de Barouya dans une grande maison collective pour le passage de jeunes garçons au statut de guerrier. Dans cette cérémonie où les hommes Barouya sont disposés par clan et où des objets sacrés sont mis en scène tout au long du rituel, ce qui frappe Maurice Godelier, c'est son enjeu politique. En effet, pour l'anthropologue qui a enquêté sur la formation de cette société Barouya et qui s'est aperçu que celle-ci n'existait en tant que telle que depuis 2 siècles et s'était construite sur 2 épisodes sanglants de prise de pouvoir, cette cérémonie d'initiation était, en même temps qu'un rite de passage, un rite d'actualisation du pouvoir des clans Barouya dominants sur les clans dominés. Et en même temps, un rite d'unification de tous ces clans dans le peuple Barouya. C'est ainsi que Godelier pense avoir sous les yeux le processus dynamique de légitimation réciproque du politique et du religieux au fondement des sociétés humaines. Bien entendu, cette analyse de Maurice Godelier ne s'applique pas seulement aux sociétés sans État. Et les monarchies absolutistes de l'Ancien Régime, dont nous sommes d'une certaine façon les hôtes en ce moment même, en sont un parfait exemple. Le monarque absolu l'est de droit divin. Et plus qu'à de nouvelles réflexions conceptuelles, j'aimerais vous inviter, pour conclure, à une petite observation. Donc, nous sommes ici dans une chapelle royale, attenante à un château royal. Et si vous observez les rosaces qui trônent au-dessus des vitraux, vous verrez que la fleur de lys se trouve au cœur de chacune d'entre elles. Plus impressionnant encore pour notre propos, les liserés de chacun des vitraux en forme d'arc, d'arc-boutant, sont faits d'une fresque alternée de croix et de fleurs de lys, les deux étant comme unis par le trait d'union du métal de l'armature des vitraux. Je crois qu'on aurait difficilement pu rêver d'une plus belle métaphore de l'alliance du politique et du religieux, alliance que le fer de l'épée a maintes fois scellée. Merci.
Merci Émile pour cette belle chronique qui nous en apprend plus sur effectivement ces questions de légitimation du pouvoir et de la religion au fondement des humanités. On comprend aussi grâce à ta chronique l'importance des sciences humaines dans la compréhension de l'humain tout simplement et des liens entre le culte et le pouvoir. Dans vos recherches à vous deux, Amélie Perrier et Jennifer Kerner, qui sont pluridisciplinaires, vous parlez d'histoire, d'architecture, d'anthropologie et d'ethnologie également. Comment ces disciplines connexes vous ont aidé et comment vous les avez, vous avez pu les utiliser finalement? Amélie Perrier, par exemple, l'archéologie utilisée par une historienne, ça donne quoi?
Dans le cadre de l'étude des Étoliens, j'ai utilisé toutes les sources à ma disposition, ce qui faisait beaucoup de travail. J'ai notamment utilisé les vestiges archéologiques, les vestiges architecturaux, les statues qui nous étaient conservées, la céramique également, un petit peu. J'ai utilisé aussi surtout les monnaies. Les monnaies, c'est un objet archéologique très important pour les historiens. Déjà pour la première raison qu'une monnaie, quand on la trouve dans une strate archéologique, c'est souvent le seul objet qui permet de dater précisément cette strate. Donc, et ensuite, voilà, on a une date précise, souvent qui nous est donnée par les monnaies, et une représentation du pouvoir à ce moment-là. Donc, c'est vraiment un objet très très important que j'ai utilisé dans mes recherches.
Jennifer Kerner. Donc vous êtes préhistorienne avant tout, mais vous travaillez également sur certaines sources ethnologiques, ce qui rejoint un peu ce que Émile disait. Quelles sont ces sources et comment, dans le cadre de ce thème aujourd'hui, elles vous apportent des éléments supplémentaires?
Eh bien, dans le cadre de mon travail, en règle générale, je m'appuie énormément sur la reconstitution de ce qu'on appelle la chaîne opératoire. En archéologie, et surtout en archéologie préhistorique, la chaîne opératoire, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui nous permet de reconstituer les différents gestes qui ont occasionné un vestige dans son état final. Effectivement, l'ethnologie, elle nous apporte des scénarios techniques possibles pour l'élaboration de tous les artefacts que l'on retrouve en contexte archéologique. Et moi, en ce qui concerne les vestiges osseux, ça m'aide énormément. Sur la constitution, par exemple, de crânes surmodelés, on a des exemples contemporains qui nous aident à approcher les exemples plus anciens. Et puis, d'un point de vue un peu plus général et peut-être même d'un point de vue plus important, je dirais, pour notre discipline, l'ethnologie nous force à nous interroger sur notre façon de regarder les vestiges et nous aide à relativiser nos interprétations qui sont finalement basées parfois sur des images d'Épinal qu'on a un peu du mal à s'enlever de la tête. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la différence entre les crânes d'ennemis et les crânes d'ancêtres. Tous les archéologues sont extrêmement nerveux dès qu'ils rencontrent un culte des crânes, à se dire, mais est-ce que c'est de l'ancêtre? Est-ce que c'est de l'ennemi? Bon, eh ben, en observant les populations maoris, par exemple, on s'aperçoit que les gens qui manipulent les crânes d'ancêtres sont souvent ceux qui manipulent aussi les crânes d'ennemis, et qu'au bout d'un certain temps, de certains brassages des générations, on confond les deux, et finalement, on fait le même traitement cultuel au crâne de l'ancêtre et au crâne de l'ennemi parce qu'on a oublié sa provenance. Et on se rend compte que parfois les archéologues se posent des problèmes qui finalement n'en sont pas pour les sociétés du présent. Pareil, nous, en archéologie funéraire, on a tendance à considérer que lorsqu'on n'a pas de corps, eh bien, on est sur du rejet de sépulture, voire carrément de la privation, quelque chose de l'ordre du négatif. Eh bien, on s'aperçoit, en observant les populations contemporaines ou subactuelles, comme les Bororos du Brésil, par exemple, que parfois, le fait de ne pas retrouver la sépulture, c'est justement quelque chose de particulièrement bon signe pour le mort, puisque les ancêtres qui sont le plus vénérés par les Bororos, ils font l'objet d'un traitement particulier,
Puis on jette leurs ossements dans le fleuve, justement pour pas que les ennemis puissent retrouver ces corps et les outrager. Donc on s'interroge sur les vestiges et sur ce que les vestiges nous disent, et on se rend compte finalement qu'on a pas mal de préjugés, malheureusement, en tant qu'archéologue.
Amélie Perrier, vous parliez tout à l'heure des offrandes. J'aimerais revenir sur ce point-là. Comment est-ce que ces offrandes, finalement, ont un poids politique et de quelle manière ?
Le plus simple, c'est que je vous donne quelques exemples. Là, Jennifer a parlé des ennemis dans les sanctuaires. On n'affiche pas seulement les statues des généraux vainqueurs. On expose aussi les armes prises sur les ennemis comme des trophées. Donc ça c'est une chose. Après bon, je reviens à Delphes. Je vais vous donner trois exemples du rapport entre culte et pouvoir. Je vous ai parlé des oracles et du rôle politique des oracles. Je vais vous donner un exemple qui est assez connu, qui est rapporté par l'historien Hérodote. Il rapporte plusieurs oracles faits par la Pythie à Delphes, et il raconte notamment une histoire. En 546, Crésus, qui est roi de Lydie, va à Delphes et pour demander à l'oracle, à travers donc la Pythie, s'il peut ou s'il doit partir en guerre contre Cyrus, le roi des Perses. Et la Pythie lui répond « Si tu fais la guerre, tu détruiras un grand empire ». Là, Crésus est tout content puisqu'il se dit « Bon, je vais détruire l'empire de Cyrus, très bien », et il part en guerre contre Cyrus. Et il perd, il est fait prisonnier, il perd la bataille, la guerre contre Cyrus. Et du coup, il accuse l'oracle, il accuse la Pythie, et la Pythie lui répond « Ah, mais tu aurais dû demander de quel empire il s'agissait. Tu ne l'as pas fait, tu t'es contenté de cet oracle, tant pis pour toi, tu as mal interprété. » Donc ça, c'est un exemple d'une interprétation politique d'un oracle qui n'a pas été justement interprété. Autre exemple du lien entre le sanctuaire et la politique, c'est vous m'avez demandé de donner un exemple d'offrande. Eh bien, à la fin des guerres médiques, donc qui ont opposé les Grecs et les Perses, les Grecs offrent en commun, toutes les cités grecques offrent en commun un trépied qu'elles érigent dans le sanctuaire d'Apollon. Et c'est la première fois qu'on a une offrande commune dans un sanctuaire, qui marque en fait une identité grecque reconnue, une identité grecque commune reconnue.
Tous ces travaux mis conjointement nous aident à travailler, comme pouvait le dire Marcel Hoth, peut-être sur le culte comme étant nécessaire à la cohésion sociale, et notamment comprendre finalement la structure de ces sociétés et comment elles sont étudiées. Et peut-être aussi légitimer la politique à travers le culte.
Légitimer la politique, oui. La cohésion sociale, je ne sais pas. Quand il s'agit de cultes locaux ou de cultes municipaux, oui. Quand il s'agit de cultes à un niveau suprarégional, si je puis dire, culte niveau panhellénique par exemple, non. Mais en revanche, effectivement, ça permet de légitimer telle ou telle décision politique, et ça permet de manipuler aussi. J'ai un exemple en tête, c'est le Romain Polémile, quand il bat le Macédonien Persée à Pina en 168, c'est vraiment une bataille décisive. Eh bien, il retourne à Delphes et il utilise un pilier qui avait été érigé pour recevoir la statue de Persée, et il y met sa propre statue. Donc là, on voit qu'il y a une utilisation politique des sanctuaires dans ce sens-là.
Jennifer Kerner, vous parlez donc beaucoup de ces structures sociales visibles à travers les gestes mortuaires. Est-ce que ces études sur les ossements nous en apprennent beaucoup sur les sociétés, et de quelle manière ?
Alors là, c'est un sujet extrêmement vaste, effectivement. Les possibilités pour faire parler les os sont relativement exceptionnelles. Au niveau uniquement de la structuration des sociétés, j'ai envie de dire que Le traitement en lui-même nous apprend beaucoup, le contexte aussi. L'émergence de la monumentalité funéraire nous aide à percevoir le début des inégalités sociales et le début des grandes prises de pouvoir qui ne sont plus des prises de pouvoir de style lignage, dynastique, des hétérarchies comme on a par exemple au Mésolithique et qui se voit à travers les traitements funéraires de cette époque. Puis on a une évolution vers un monumentalisme funéraire qui s'engage au néolithique et puis qui prend différentes formes, mais on voit effectivement ces élites politiques, clairement politiques, qui sont d'ailleurs très souvent liées à la sphère de la guerre. Je pense notamment à la culture de Cerny, à la fin du 5e millénaire avant notre ère, qui va valoriser des sépultures de guerriers, qui sont mises en scène avec des armes, par exemple. Oui, ça c'est la première chose qui nous permet de voir l'émergence d'un pouvoir en place. Après, les os en eux-mêmes, lorsqu'on a beaucoup de corps, ça nous permet de voir qu'il y a déjà des gens qui très rapidement sont mieux nourris que d'autres. Et ça c'est du ressort de l'anthropobiologie et je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails médico-légaux tout de suite.
Amélie Perrive.
Oui, ben, d'un point de vue social, on apprend quand même des offrandes qui sont des monuments ou des objets exceptionnels. Donc il faut garder ce caractère exceptionnel et ne pas faire de généralité à partir de ça. Mais par exemple, pour reprendre un exemple étolien, dans le sanctuaire de Delphes, on a plusieurs offrandes faites par des femmes, des offrandes privées faites par des femmes étoliennes. Et c'est quelque chose de très rare qu'on a souligné et qui nous permet de nous interroger sans forcément apporter de réponse sur la place et le pouvoir des femmes dans les sociétés montagnardes du nord-ouest de la Grèce. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc là, on a un exemple de ce que peut révéler d'un point de vue social, sur la société, sur une société antique.
Merci. On passe donc à vos questions. Je laisse le micro à Émile pour vous le passer si vous avez des questions pour nos intervenantes.
Bonjour, Camille Lannet, je dirige un établissement du ministère de la Défense ici à Saint-Germain. Ça nous éloigne, même si notre ministère n'outrage plus depuis longtemps les ossements des ennemis. Nous intéressons encore à ces sujets et sur le thème du lien entre autorité et culte, je voulais le rapprocher un petit peu de notre période actuelle. Et je voulais vous poser la question suivante. Si nous poussons un petit peu votre démonstration, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait donc une séparation réelle et surtout légale entre le culte et l'autorité, qui a pu exister du temps de la divinisation, sous l'Ancien Régime en particulier, n'a pas fait perdre d'une certaine manière une forme de pouvoir d'attachement et de regard sur le pouvoir. Donc c'est un peu une question provocatrice, mais je voudrais que vous me donniez une réponse.
Ça dépend dans quel sens vous entendez une perte de pouvoir, parce que déjà la séparation de l'Église et de l'État, c'est quelque chose de très français quand même. En Europe, il y a encore des pays où l'Église et l'État ne sont pas séparés, comme la Grèce. Chaque année, à Pâques, le clergé, enfin le pope bénit tous les corps d'armée rassemblés devant les églises. C'est assez impressionnant quand on n'est pas habitué à ce genre de manifestation. Après, perte de pouvoir, je sais pas. C'est plus une redéfinition de l'équilibre des pouvoirs. Voilà, mais je sais pas si on peut parler de perte de pouvoir, mais...
Non, c'était plus sur le déficit au niveau du regard qu'on peut, sur une, si vous voulez, sur une dimension temporelle entre ce qu'était le chef, voilà, du temps de l'Antiquité ou des monarchies hellénistiques, et maintenant, si on arrive un petit peu à jauger, en fait, ce qu'était le chef et le regard qui était porté sur le chef et le regard qui peut être porté maintenant sur le regard. Parce que jauger le pouvoir en lui-même, c'est difficile. Mais...
Après, ça prend des modalités différentes, parce qu'il y a quand même une construction de l'image, d'autant plus aujourd'hui avec les médias. Il y a une construction de l'image du pouvoir qui échappe d'ailleurs parfois au pouvoir lui-même. Donc les modalités changent, mais les représentations sont tout aussi riches. Effectivement, le lien avec le caractère religieux de la personnalité ou des personnalités influente a changé, mais...
Peut-être donner un élément, c'est le retour, j'ai l'impression, le retour en force de l'autorité charismatique. On le voit, par exemple, non seulement dans l'autorité charismatique au sens propre, au sens vulgaire, j'ai envie de dire, du charisme des hommes politiques, du charisme des leaders qu'on encourage et qu'il faut travailler quand on veut avoir des tâches d'encadrement, qu'elles soient militaires ou autres, mais le charisme également dans les courants religieux qui, contrairement à la sécularisation dont je parlais, eux remontent en puissance, les courants charismatiques de l'évangélisme protestant. Donc je pense que voilà, c'est une des pistes de... peut-être une petite piste de réflexion sur cette nouvelle source d'autorité qui est peut-être la plus ancienne de toutes.
Une autre question peut-être dans le public ?
Bonjour, j'ai cru comprendre que les oracles avaient quand même un rôle direct ou indirect sur le pouvoir via les différentes sentences qu'elles pouvaient émettre. Comment est-ce que ces personnes étaient choisies ? Est-ce qu'elles étaient elles-mêmes choisies par le pouvoir en place ? Voilà, comment la sélection se faisait ?
Alors c'est une question qui est un peu compliquée, qu'il faut particulariser. On n'a pas toujours les sources qui nous permettent de connaître ces mécanismes. La Pitti, par exemple, était très soigneusement choisie. On pense qu'il s'agissait d'une vieille femme, une femme honorable, on va dire, qui devait suivre certaines règles de vie. Et c'est la même chose pour le clergé. Le clergé était très, très soigneusement choisi. Et le clergé, par exemple, dans les cultes royaux, le prêtre du culte royal, c'est un des personnages les plus importants de l'État.
D'autres questions ?
Bonjour, je m'appelle Christophe Bourdès. Je voudrais revenir sur votre propos, Mlle Kerner, concernant les tribus maoris, je crois, qui ont tendance à faire un petit peu un mix entre les crânes des ancêtres et les crânes des adversaires. Et puis, dans une deuxième partie, si vous le voulez bien, j'aimerais que vous précisiez un petit peu l'importance qu'avait le trophée de Rimont-sur-Ancre que vous avez évoqué tout à l'heure. Concernant les crânes des ancêtres dans les tribus maoris, est-ce que, pour vous, le mélange de ce qui était un ancêtre et de ce qui était un adversaire est une preuve d'une solidité, d'une imbrication du culte et du pouvoir, ou est-ce au contraire la preuve d'une sorte de déliquescence des valeurs ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Tout à fait. Je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, je pense vraiment que cette confusion, elle n'est absolument pas calculée. Elle n'est pas due à une volonté de vouloir intégrer l'ennemi à soi. Et il me semble que on a vraiment juste à voir là-dedans un affront. On essaye d'empêcher les ennemis d'avoir accès au culte des ancêtres que les leurs devraient leur prodiguer. Et le fait de les confondre au fur et à mesure du temps, eh bien, à mon avis, c'est juste de l'ordre de la manipulation pratique, comme le lieu du culte est toujours la maison, hein, c'est un culte qui est essentiellement domestique chez les Maoris, eh bien, on mélange facilement ce genre de choses, comme on n'a pas de structure très adaptée, soit pour l'ancêtre, soit pour l'ennemi. Après, il me semble pas qu'une certaine déliquescence, comme vous dites, soit en cause dans cette confusion-là. C'est juste une manipulation, enfin, de l'ordre de la contingence pratique pure, je pense. Et pour revenir à Rimont-sur-Ancre, alors c'est absolument pas ma spécialité, mais je vais tenter d'en dire quelques mots. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, hein. On n'a pas que des ossements humains, on a aussi des apports de matériaux, de vestiges, des apports également de restes osseux phoniques. Il semble que c'était quand même un endroit où on revenait très souvent, certainement peut-être pour des commémorations de type peut-être martial, commémoration de victoires guerrières sur l'ennemi ou autre. C'est tout de même encore, malgré les très bonnes études de Jean-Louis Bruno, et je vous demanderai de vous référer à ses excellents travaux sur la question pour plus d'informations, c'est quand même encore des sanctuaires dont on connaît mal le fonctionnement. Enfin, on connaît bien le fonctionnement et on connaît encore malheureusement un peu trop peu la finalité des rites qui étaient pratiqués dessus.
Amélie Perrier ?
Le culte des ancêtres, c'est quand même... Voilà, on s'en rend tous compte, c'est quelque chose qui est essentiel dans nos sociétés, et il faut récupérer le corps. Il faut avoir un corps pour pouvoir honorer les ancêtres. Et en Grèce antique, pendant les guerres, il fallait pouvoir récupérer les corps à la fin de la bataille. Et si l'ennemi décidait de garder les corps, c'était un véritable traumatisme pour l'ensemble de la société de ne pas pouvoir récupérer les corps.
Eh bien, on va conclure. J'aimerais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine émission. N'oubliez pas qu'en ce moment, il y a de l'exposition « Moi, Auguste, empereur de Rome » qui a commencé le 19 mars et qui se terminera le 13 juillet, donc au Grand Palais. Je vous y invite. Émile ?
Merci, Nora. Et une petite chose, vous avez les moyens de gagner des places sur notre site internet, sur radiocampusparis.org. Vous pouvez gagner des places pour des expositions du musée du Quai Branly. Il suffit d'écrire à notre chargé de communication et on fait un petit tirage au sort. Mais vous avez beaucoup de chance, si vous le faites, d'avoir des places gratuites pour des expositions temporaires.
Merci à tous. Son.